Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire criminelle mythique de la fin du 19e siècle, l'affaire de la malle sanglante ou l'affaire de la malle à gouffer. Une histoire qui a passionné les foules à l'époque et qui a été suivie jour après jour par les journaux, bien plus que n'importe quel fait divers contemporain. C'est l'histoire d'une malle que l'on retrouve dans la région de Lyon et qui a servi à transporter le cadavre d'un huissier de justice, coureur de jupons. Pour trouver l'assassin, il suffira de trouver le jupon. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant notamment sur le livre de Pierre Darmon, paru en 1988 aux éditions de Noël, « La malle agouffée, le guet-apens de la Madeleine ». Thomas Oudouard m'a aidé à l'écrire, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous voici à Paris durant l'été 1889. L'année de l'exposition universelle et surtout l'année de l'inauguration de la Tour Eiffel. Le 26 juillet, un vendredi en fin d'après-midi, vers 5h30, Maître Toussaint-Augustin Gouffet, huissier de justice, quitte son étude. Il a rendez-vous pour boire un verre avec l'un de ses vieux amis au Café Véron, où il a ses habitudes, près de la Madeleine. Il est en habit et chapeau haute forme, comme toujours. Il marche d'un bon pas et il arrive au Café Véron. À cette heure-là, un vendredi, le café est plein à craquer. Il cherche son ami du regard, il ne le voit pas. En revanche, il ne va pas manquer de compagnie.
« Ah, Toussaint, te voilà! Mais viens avec nous, joins-toi à nous, viens donc !»
Il y a là attablé quelques-unes de ses connaissances, des grands bourgeois comme lui, qui ont pour habitude de se retrouver le soir après le travail, autour de deux, ou trois, ou dix verres d'absinthe. Alors il en boit une, tout en bavardant avec eux. Et puis deux, et puis trois. Et aux alentours de 7h20, considérant que son ami ne viendra plus, et que sans doute il a eu un contretemps, Maître Gouffet se lève et salue l'accompagné.
« Mes amis, je dois vous laisser. Ce soir, j'ai un dîner. »
Il a dit ça avec un sourire amusé, qui laisse entendre que ce soir, il n'est pas question que de dîner. À dater de ce moment, on ne le reverra plus jamais vivant. Le lendemain matin, sa bonne, Mathilde, s'aperçoit qu'il n'a pas dormi dans son lit.
« Ah ah ! Il a dû découcher !»
Soucieuse de sauver les apparences vis-à-vis des filles de monsieur qui vivent sous le même toit, elle entreprend de froisser les draps et répand dans la cuvette de l'eau savonneuse, comme s'il s'était lavé. Mais à l'heure du déjeuner, Maître Gouffet n'est toujours pas là. Et pour le coup, la bonne est inquiète. Certes, il a l'habitude de découcher de temps en temps, mais quand il ne vient pas déjeuner, il prévient toujours. Et là, il n'a pas prévenu. Alors au début de l'après-midi, la Mathilde s'en va voir Monsieur Landry, le beau-frère de monsieur.
C'est inquiétant, Monsieur Landry. C'est pas trop dans ses habitudes, de partir longtemps, comme ça sans rien dire. Longtemps, Mathilde, vous exagérez. Il a disparu depuis 24 heures, moins de 24 heures, si ça se trouve, à cette heure-ci. Il prend du bon temps. Attendons, Mathilde, hein? Laissons-lui le temps de rentrer avant de nous inquiéter.
Mais au bout de 2 jours, Maître Gouffet n'est toujours pas rentré. Et son beau-frère va donc signaler sa disparition au commissariat de police de Bonne Nouvelle.
Voilà, monsieur l'inspecteur. Viens vous signaler la disparition de mon beau-frère. Tout ça... Augustin Gouffet. Cela fait 3 jours que nous sommes sans nouvelles. Personne ne l'a revu depuis la soirée de vendredi. 3 jours ? Et pourquoi vous me prévenez si tard ? Je suis son beau-frère. Ma sœur est décédée et les filles de M. Gouffet vivent avec lui, certes, mais elles sont autonomes, ce qui explique qu'on ne vous alerte que maintenant.
Oh, le menteur !
Et où il travaille, ce M. Gouffet, là ? Il a sa propre étude d'huissier de justice. Et d'après ce qu'on dit, il n'avait pas prévu de déplacement.
Un huissier de justice qui disparaît, ça vaut bien un commissaire. C'est donc le commissaire Brissot qui est chargé de l'enquête.
Alors voyons, monsieur Landry. Pourriez-vous me donner une description de votre beau-frère ? Bien entendu, monsieur le commissaire. Maître Gouffet mesure dans les 1,75 m. Il a 48 ans, Mais il en paraît facilement 40, hein. Il a des cheveux châtains, il porte la barbe taillée bien en pointe, il a de longues moustaches, blond roux. Il porte aussi une bague en or montée d'un saphir et de brillants. Et il me semble qu'il a une cicatrice à la cheville gauche. Le commissaire Brissot commence par se rendre au Café Véron, où il tombe sur les compères qui ont bu un verre avec Gouffet vendredi. « Eh bien, écoutez, commissaire, il est arrivé à 6 heures dans mon souvenir, oui. Et il est reparti vers les 7h20, en nous disant « je vais dîner dehors ». On le connaît, hein. Il avait rendez-vous avec une poule, voilà tout. « Une poule, dites-vous ? » ?»« Oui, il est veuf, monsieur le commissaire. » Vous ne pouvez pas lui reprocher de chercher la compagnie des femmes. Le commissaire est un peu agacé, parce que le beau-frère ne lui a pas parlé de cette propension à courir la gueuse. Si ça se trouve, à cette heure-ci, l'oiseau est en train de roucouler dans le lit d'une poulette. On lui fait perdre son temps. Et donc, en sortant du café, Brissot file droit voir le beau-frère. Monsieur Landry.
N'auriez-vous pas oublié de m'informer des mœurs de votre beau-frère ?
Oui, pardonnez-moi, monsieur le commissaire, de ne pas l'avoir fait d'emblée, mais je trouve le sujet délicat, vous me comprenez ?
Je vous comprends, je vous comprends, mais je ne voudrais pas perdre mon temps à chercher un homme qui, à cette heure-ci, pourrait se trouver dans le lit d'une cocotte.
Je comprends bien, monsieur le commissaire, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Disons qu'Augustin... aime les femmes légères, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas très bien qui elles sont, mais il y en a, hein. C'est certain.
Et selon vous, cela peut-il ouvrir une piste quant à sa disparition?
Sans doute, monsieur le commissaire, sans doute. Je crains qu'Augustin ait pu être manipulé par une femme. Une femme qui voulait son argent.
Le commissaire Brissot file ensuite à l'étude de Maître Gouffet, rue Montmartre. Et là, il tombe sur la concierge, qui lui raconte une drôle d'histoire qui remonte au vendredi soir de la disparition.
Oh, ben, il devait être dans les 9h30 du soir, hein, monsieur le commissaire. Et là, j'ai vu passer un homme, et qui marchait à grands pas vers l'étude. Moi, je l'ai vu que de dos. Et j'ai cru que c'était Maître Gouffet. Il était habillé tout pareil, hein, en habit et chapeau. Et comme j'avais du courrier pour lui, ben, j'ai attendu qu'il ressorte. Et quand il est sorti, ben, j'ai vu que c'était pas lui. Vous vous rendez compte, monsieur le commissaire, j'ai laissé un inconnu entrer à l'étude.
Et quand il vous a vu, il n'a rien manifesté.
Ah, que si! Il s'est mis à courir dans la rue. J'ai pas eu le temps de le rattraper, rien. J'étais bien contrarié.
Le beau-frère l'a mis sur la piste d'une femme, et la concierge sur la piste d'un homme. Pendant près de 3 semaines, l'enquête reste au point mort. L'été avance, l'exposition universelle bat son plein, mais toujours pas la moindre trace de Maître Gouffet. La suite se joue le 13 août, loin de Paris, à Millery, près de Lyon, sur les bords du Rhône. Vous ne connaissez pas ? Oh ! C'est un endroit magnifique, hein. Si vous aimez les promenades au bord de l'eau, il n'y a pas mieux. La comtesse Bec de Lièvre adore l'endroit. Je vous jure que c'est son nom, hein. Elle y vient se promener autant qu'elle le peut. En plein été, le bord du fleuve est très rafraîchissant. Mais le 13 août, la comtesse se sent incommodée. Déjà, hier, ça sentait la charogne. Mais là, et elle n'est pas la seule, hein.
Oh, vous avez senti cette odeur épouvantable? C'est une odeur de mort, madame la comtesse. C'est une odeur de mort.
Et donc on s'en plaint, officiellement. Et le cantonnier et le garde champêtre débarquent sur place. Ça vient de là. De ce talus, là-bas, couvert de broussailles.
Ça vient de ce gros sac, là, hein? Regarde-le, il est couvert de mouches, là.
Le cantonnier prend son courage à deux mains. Il dénoue lentement la cordelette qui ferme le sac. et apparaît une tête. Et derrière, un corps tout entier, saucissonné comme un rôti. Purulent, grouillant de verre, en état de décomposition très avancée. Une heure plus tard, arrive le juge de paix de Givors, les gendarmes, le substitut du procureur de Lyon et un juge d'instruction. Le lendemain, 14 août à 8 heures, a lieu l'autopsie à l'amphithéâtre de la faculté de médecine de Lyon. Elle est menée par le docteur Bernard, médecin légiste remplaçant. Le titulaire est en vacances. Le corps est dans un tel état, il est infesté de verre, qu'à un moment, on craint qu'il ne tourne de l'œil. Je vous le dis, la meilleure technique dans ce cas, je vous parle d'expérience, c'est de se fourrer dans les narines du coton imbibé de ce que vous voulez, genre Vicks Vaporub. Vous voyez, un truc qui sent très fort. C'est la seule manière de supporter. Et c'est ce qu'a dû faire le docteur Bernard, qui, à la fin, dicte son rapport.
Le corps est celui d'un homme de corpulence moyenne qui pourrait avoir entre 35 et 40 ans et mesure 1m70. Il porte une barbe châtain clair et a les cheveux noirs. Il nous est présenté entièrement nu, virgule, ligoté par 7 mètres de corde. Point. Notons qu'il manque une molaire à droite. Point. Que les ongles des mains et des pieds sont bien soignés. Point. De toute évidence, virgule, il est mort étranglé, virgule, le cartilage autour de sa thyroïde est fracturé. Point. Selon toute vraisemblance, virgule, la mort remonte à 5 semaines. Point. Dans la foulée, une information judiciaire contre X est ouverte pour homicide volontaire. Tous les riverains de Millery sont auditionnés. Depuis quand est-ce que ça sent mauvais?
Oh ben, je dirais, depuis un mois et demi, oui, oui, un bon mois et demi.
Donc, se dit le juge, le meurtre a eu lieu début juillet. Mais ça n'est pas tout. Le lendemain, dans le même coin, un certain Alphonse Richard s'en va cueillir des escargots. Et il tombe sur une mare, pouah, qui sent abominablement mauvais, et d'où émergent les débris d'une grande malle. Le cueilleur d'escargots prend ses jambes à son cou et s'en va prévenir la police. Et le commissaire Thomas arrive sur place dans l'heure.
« Remontez-moi tout ça, je vous prie, oh ! Cette odeur, quelle horreur !»
Ce sont bien les débris d'une grosse malle. Et sur le couvercle de cette malle, il y a une étiquette. Une étiquette de la compagnie de train PLM, qui relie à l'époque Paris, Lyon et Marseille. Et sur cette étiquette, il est écrit « Train rapide numéro 3 de Paris, le 27 juillet 1880 ». Le dernier chiffre est illisible, mais c'est possiblement un 9. La malle serait donc arrivée par le train de Paris le 27 juillet dernier. Autrement dit, il y a 15 jours. Et comme elle sent la mort, alors qu'il n'y a aucun cadavre dedans, et qu'on est tout près de l'endroit où on a découvert le corps la veille, ah ben c'est vite fait. Cette malle a servi à transporter le cadavre. Et la chose est parfaitement certaine quand quelques jours plus tard, on retrouve là où on a découvert le corps, une toute petite clé qui permet d'ouvrir la serrure de la malle. Et c'est cette malle et les fantasmes qu'elle va soulever qui vont faire le succès de cette affaire dans les médias. Quelque temps plus tard, un matin, le chef de la sûreté parisienne, le commissaire Coron, ouvre le journal. Et il tombe sur cette histoire de malle sanglante à Lyon. Il lit l'article, et ça lui fait tilt tout de suite. Le cadavre, c'est sans doute son bonhomme, c'est l'huissier, c'est gouffé, il en est sûr. Alors ni une ni deux, le commissaire Goron embarque deux de ses hommes, et Landry, le beau-frère de Gouffé, et tous les quatre prennent le train pour Lyon. Si Landry est en mesure d'identifier ce corps, il récupère le cadavre. S'il ne le reconnaît pas, alors il faudra le laisser aux Lyonnais. Hein, les Lyonnais sont susceptibles, hein. Un Parisien ne leur prendra pas un corps comme ça. À peine arrivés à Lyon, les quatre filent directement à la morgue de la faculté de médecine, où on les conduit au sous-sol, dans une pièce éclairée, à la bougie.
Je vous préviens, hein, monsieur Landry, l'odeur est difficilement respirable.
Et on leur présente le corps, qui était déjà très abîmé quand on l'a découvert et que l'autopsie n'a pas arrangé.
Alors, monsieur Landry, reconnaissez-vous votre beau-frère, monsieur Gouffet?
Ah, ça non, non. C'est impossible que ce soit lui, cet homme a les cheveux noirs et bouclés. Et mon beau-frère avait des cheveux châtains et courts.
Et de fait, l'âge, la taille, la couleur des cheveux, rien ne correspond au signalement de Gouffet. Le commissaire Goron est obligé de battre en retraite devant ses confrères lyonnais. Un peu goguenard.
Ah, c'est parisien. Ils veulent toujours tirer la couverture à eux.
Sauf que sur ce coup-là, les Parisiens avaient raison. Les policiers lyonnais sont retournés voir les habitants de Millery. Et la comtesse Bec-de-Lièvre, qui prétendait que l'odeur pestilentielle durait depuis le début du mois de juillet. Ils se sont trompés. C'est fâcheux. Ils ont dit juillet, ils voulaient dire août. Ça sent mauvais depuis le début du mois d'août. Ah, les témoins, on leur fait trop confiance, à mon avis. Et là, ça colle avec la disparition de Gouffet. Et puis les Lyonnais ont fait une nouvelle autopsie, réalisée cette fois par le médecin légiste Lacassagne, qui est un ponte. Landry, vous vous souvenez, n'a pas reconnu son beau-frère à cause de ses cheveux trop longs et trop noirs. Eh bien, le légiste révèle que les cheveux d'un mort noircissent et qu'ils continuent de pousser après la mort. Il demande qu'on lui fasse parvenir les cheveux du disparu parisien qu'on prélève sur sa brosse à cheveux.
Je dirais que ses cheveux sont en tout point pareils.
Quant à l'âge du cadavre, le premier légiste avait dit 35 ans. Il s'est trompé, hein, d'après le docteur Lacassagne. Il aurait plutôt 50 ans. Bref, à un moment donné, les policiers et le juge lyonnais sont bien obligés de reconnaître que le cadavre est celui de Maître Gouffet. Et du coup, Paris récupère le corps et les restes de la malle. Et cette malle, il est décidé de la reconstruire en assemblant les débris sanguinolents et de l'exposer en public, à la morgue du Châtelet. Un appel est lancé à la population. Si quelqu'un reconnaît la malle, qu'il nous le dise. Et c'est le défilé, rassurez-vous. Des cochers, des concierges, des tas d'autres gens curieux, juste curieux, viennent voir la chose. Vous y seriez allé, vous? Eh ben moi, je pense que oui. En 12 jours, plus de 20 000 personnes défilent. Et le 22 novembre, un homme se présente au juge. Il s'appelle Liénard.
Monsieur le juge, je suis allé voir la malle qui est exposée au Châtelet. Et je suis formel. Je la reconnais. Elle appartient à l'une de mes bonnes amies. Gabrielle Bompard, qu'elle s'appelle.
Au même moment, une lettre arrive de Londres, deux Français. Les époux Chéron racontent dans une longue lettre que cette malle, eux aussi, ils la connaissent. Ils prétendent qu'elle a été achetée le 11 juillet à Londres par un couple de leurs amis, une certaine Gabrielle Bompard, encore elle, et un certain Michel Hérault. Enfin une piste! Il n'y a plus qu'à les retrouver, ces deux-là. Alors, où sont-ils? D'après la lettre, cette malle, ils l'ont achetée à Londres il y a 4 mois. Et depuis, plus de nouvelles. Qui sont-ils? Michel Hérault d'abord. Renseignement pris, c'est un aventurier. Il a vécu en Amérique du Nord, et puis en Amérique du Sud, et enfin à Cuba. Et a priori, c'est un escroc. Il a monté plusieurs sociétés, elles ont toutes fait faillite. Et à chaque fois, il est parti avec la caisse. Donc en principe, il est riche. Ce qui peut expliquer que depuis 2 ans, Gabriel Bompard se soit entiché de lui. Parce que cette Gabriel, c'est ce qu'on appelle une cocotte. Hein, c'est une jeune et jolie cocotte de 22 ans. Et une cocotte, ça aime les hommes riches. Et uniquement les hommes riches. Donc il lui offre des belles robes et des bijoux à la reste. Et le jour où il est sur la paille, bye bye, au suivant. Alors où sont-ils, ces deux-là? Le 10 janvier 1890, 6 mois après l'assassinat de Gouffet, le préfet de police reçoit une lettre postée à Montréal, au Canada. Monsieur le préfet de police, j'apprends à l'instant que l'on nous accuse d'assassinat du malheureux monsieur Gouffet. Ce sont d'infâmes calomnies et je pars pour Paris afin de nous disculper et de vous donner le nom des vrais coupables. Signé Gabriel Bompard. Une autre lettre arrive 10 jours plus tard. Signée cette fois, Michel Héroux. Monsieur le préfet, pourquoi aurais-je fait disparaître mon ami Gouffet? Parce qu'il couchait avec Gabriel Bompard? Mais hélas, tout le monde y couchait avec elle. Et s'il fallait que je les tue tous, j'aurais eu bien du courage. Et 2 jours plus tard, comme l'avait annoncé dans sa lettre Gabriel Bompard, elle débarque à Paris. Et elle se présente spontanément au juge. Et elle lui dit, les yeux dans les yeux,
« Monsieur le juge, moi j'y suis pour rien dans la mort de Gouffet. J'étais là quand on l'a tué, mais j'ai rien pu faire. »
La belle accuse son ami Héros. Le juge dira plus tard, au sujet de son interrogatoire, « La sensualité et la corruption transpiraient par tous les pores de sa peau. » Il ne la croit pas. Et il l'inculpe sur le champ d'homicide volontaire, et il l'envoie derrière les barreaux, en se disant « Ma cocotte, tu vas finir par y venir ». Et d'ailleurs, dans les jours qui suivent, elle modifie lentement son témoignage. Elle finit par admettre, par exemple, que c'est elle qui a envoyé à Gouffet un petit billet pour lui dire qu'elle l'attendait chez elle le soir du 26 juillet, à la demande de Michel Héroux. Et elle y va lentement, comme ça, en changeant de version plus de 8 fois. Et puis un jour, elle se couche, elle raconte tout, dans le détail.
J'ai commencé par louer un appartement, tout spécialement près de la Madeleine. Et ensuite j'ai envoyé un petit mot à Gouffet pour lui fixer un rendez-vous, le soir du 26 juillet. Et quand il est arrivé, je l'attendais nu sous ma robe de chambre. Et Héros était planqué derrière un paravent. Gouffet était assis sur le lit. Je lui ai proposé un petit jeu. Je lui ai noué sa ceinture de robe de chambre autour du cou, comme une cravate, vous voyez. Et j'ai attaché la ceinture à une ficelle. Et la ficelle à une poulie. Ça l'excitait beaucoup. Et Héros, qui était derrière un paravent, s'est mis à tirer sur la ficelle et ben, ça l'a fait monter tout droit au plafond, quoi. Il est resté pendu à la poulie. Et ensuite? Eh ben ensuite, monsieur le juge, eh ben nous avons fait l'amour, Héros et moi,
à 1 mètre du corps de Gouffet.
Et après votre... Oh, tout ça est indécent, le cadavre. Eh bien, c'est là que Héros est allé chercher la malle et qu'il avait pris soin de renforcer en collant une plaque métallique sur le fond.
Une fois le corps dans la malle, Héros a piqué les clés de Gouffet. Il est allé à son cabinet. Il a tenté d'ouvrir le coffre. Il n'y est pas arrivé. Ils l'ont tué pour rien. Mais le mobile, c'était bien l'argent. Et la cocotte raconte que le lendemain, ils ont pris tous les deux le train pour Lyon, en emportant la malle comme un bagage ordinaire. Mais comme l'odeur devenait pénible, ils s'en sont débarrassés au bord d'un chemin. Voilà! Voilà les aveux complets que vient de passer Gabriel. Il reste donc à retrouver ce Michel Héros, qui, si on en croit sa dernière lettre, se trouve à New York. Il est décidé d'envoyer immédiatement 2 brigadiers aux États-Unis. Et en 1890, je vous fais remarquer que c'est une expédition. Mais la police française, mesdames et messieurs, ne recule devant rien. Sauf que quand ils arrivent, l'autre a déjà quitté le pays. On leur dit qu'il serait à Cuba. Et effectivement, en février, un agent du consulat de France à La Havane le croise dans une maison close de Cuba. Héro est arrêté à Cuba et extradé vers la France en bateau via Saint-Nazaire. Et quand on le remonte de Saint-Nazaire jusqu'à Paris en train, à chaque escale, la foule crie à son passage « À mort l'assassin! À l'échafaud !» Et quand le train arrive à Saint-Lazare, il y a des centaines de personnes qui l'attendent sur le quai. Ils veulent le lâcher! Michel Hérault est présenté au juge. Il accuse Gabriel d'être à l'initiative du meurtre. Mais peu importe, il est inculpé à son tour. Et ce sera à la cour d'assises de départager la responsabilité de l'un et de l'autre. Le procès de Gabriel Bompard et Michel Hérault s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le 16 décembre 1890. Tout le monde veut en être, bien sûr. Et du coup, l'accès au tribunal ne se fait que sur carton d'invitation, y compris pour les journalistes. On leur a réservé 60 places et pas une de plus. Et comme il y a trop de demandes, on finit par tirer au sort. Et devant le palais de justice, il y a des colporteurs qui vendent des modèles réduits de la malle, figurez-vous, avec à l'intérieur une figurine en plomb de Gouffé. C'est pas de bon goût, mais ça se vend comme des petits pains. Quant au propriétaire de l'appartement de la Madeleine où a eu lieu le meurtre, il fait visiter la chambre du crime. 25 sous. Et il y a du monde. Ce qui va marquer ce procès, c'est la défense de Gabriel Bompard. Elle prétend que si elle a participé au crime, c'est parce que Michel Hérault l'a hypnotisé. Je dois vous dire qu'à l'époque, on connaît assez mal l'hypnose. Est-il possible de manipuler quelqu'un après l'avoir hypnotisé? On se tourne vers le médecin légiste, le docteur Lacassagne.
Écoutez, ce n'est pas vraiment ma spécialité, hein? Mais, néanmoins, il me semble que sous l'influence de l'hypnose, mademoiselle Bompard a pu être aisément manipulée, oui.
Le 20 décembre, Gabriel Bompard et Michel Hérault sont tous les deux reconnus coupables du meurtre de Maître Gouffé. Coupables, mais pas au même tarif. Michel Hérault est condamné à mort, tandis que Gabriel a réussi à faire gober au juré son histoire d'hypnose. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés. Un mois et demi plus tard, Michel Hérault est guillotiné devant la prison de la Petite Roquette face à une foule en furie, tandis que Gabriel Bompard est envoyé purger sa peine à la prison de Clermont-Ferrand. Sur les 20 ans, elle va en faire 12. Elle est relâchée pour bonne conduite, elle est ensuite ouvreuse au théâtre, puis au cinéma. Elle mourra en 1920. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant notamment sur le livre de Pierre Darmon, paru en 1988 aux éditions de Noël, « La malle à Gouffé, le guet-apens de la Madeleine ».
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.